l'urgence, c'est que mon fils revienne à la maison. On veut le revoir, on veut avoir une piste, puisque aujourd'hui on n'a aucune piste, on n'a pas de détails, mais c'est un enfant peureux. Ce que je veux savoir, c'est que les gens, faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. Cherchez-le, aidez-nous.
Bonsoir. Près de 17 ans d'enquête pour pouvoir enfin poser un nom et un visage sur l'homme qui avait enlevé Jonathan Coulon, un petit garçon de 10 ans et demi que ses parents surnommaient Titi. Un rapt qui s'était déroulé au mois d'avril dans un centre de vacances de Loire-Atlantique et qui avait ému la France. La date du lundi 25 janvier 2021 marque l'épilogue de l'affaire Jonathan, la mise en examen d'un serial killer d'enfants, un Allemand portant le nom de Martin Ney. Épilogue, mais pas conclusion, bien sûr, du dossier. Le juge d'instruction va désormais s'efforcer de recueillir les confidences du meurtrier présumé de Jonathan. Seul moyen de faire la lumière sur un scénario qui n'a jamais pu être précisément reconstitué, celui des dernières heures du petit garçon. Seule opportunité pour la justice d'organiser un jour prochain un procès pour ce crime. La famille Coulon, brisée par la mort de Jonathan, éreintée par cette longue quête de vérité, pourra alors commencer à faire le deuil de son petit garçon, parti lors de vacances où il avait vu la mer pour la première fois de sa courte vie. L'affaire Jonathan Coulon. Quel secret cache son meurtrier présumé, l'Allemand Martin Ney? C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Jonathan Coulon. Après 17 ans d'enquête, son meurtrier présumé, un tueur d'enfants allemand, a été mis en examen. Il serait derrière la disparition du petit garçon au printemps 2004. Au matin du 7 avril 2004, il manque un pensionnaire à la table du petit déjeuner du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, station balnéaire de la Côte de Jade, en Bretagne. L'établissement, baptisé PEP 18 pour pupille de l'enseignement public du Cher, accueille pour ses vacances de printemps les écoliers de ce département. Celui qui ne répond pas à l'appel est Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Il est arrivé quelques jours plus tôt à Saint-Brévin avec d'autres élèves d'une classe de CM2 d'un établissement d'Orval au sud de Bourges pour une première découverte de l'océan. Jonathan n'est pas dans son lit. L'enfant a disparu en pyjama. Il n'a pris ni ses chaussons ni ses chaussures. On pense tout de même à une fugue. Des moniteurs font le tour du bâtiment de l'avenue André Vien, dans lequel on peut se perdre ou se cacher, inspectent les pièces, mais aucune trace de Jonathan. On craint un accident, la gendarmerie est prévenue. Les gendarmes prennent tout de suite très au sérieux cette disparition. Les grands moyens sont déployés. Dans les heures qui suivent, 130 militaires sont à pied d'œuvre pour ratisser les bois avoisinants, l'épaisse forêt de la Pierre Attelée qui longe le littoral. Pas moins de 600 affichettes portant le signalement du petit garçon sont distribuées dans les boulangeries, les cafés, les bureaux de poste. Les gendarmes mettent rapidement sur pied une cellule spéciale baptisée Disparition 44, destinée à recueillir le moindre renseignement utile. Un numéro vert mis en place reçoit pas moins de 400 appels en quelques jours. Des maisons sont fouillées, y compris des résidences secondaires fermées. 480 automobilistes de la route bleue seront interrogés au fil des jours. La piste d'un accident sur cet axe voisin est très fréquentée, n'est pas totalement exclu. En dépit des efforts déployés, les heures et les jours défilent sans faire surgir de traces de Jonathan. L'hypothèse d'un enlèvement est dans tous les esprits. Le petit garçon a peut-être été la victime d'un maniaque. Encore faut-il connaître les lieux et oser entrer sans se faire repérer dans le centre de vacances. Il s'avère que la serrure de la chambre de Jonathan et de ses camarades est depuis longtemps cassée, impossible de fermer cette porte. En outre, le lit du petit garçon est celui qui est le plus proche de l'entrée, le plus facile d'accès. Le personnel de l'établissement est questionné, tout comme les parents de Jonathan, effondrés, accourus sur place. Virginie et Stéphane Coulon sont un jeune couple recomposé, comme on dit. Avant de se rencontrer, ils avaient tous deux déjà un enfant. Jonathan pour elle, une fille pour lui. Les Coulon ont eu ensemble deux autres filles. C'est une famille modeste, unie, discrète, respectée dans le village où ils vivent, Orval. L'idée d'un éventuel enlèvement intrafamilial est tout de suite écartée. Bonsoir Patrice Gabart.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nantes. Vous êtes notre correspondant dans cette magnifique région et vous avez suivi cette affaire qui a été assez longue et qui a causé beaucoup d'émoi dans votre coin. Patrice Gabart, c'est vraiment un choc cette disparition. On s'attend à tout sauf à ce genre d'événement à Saint-Brévin-les-Pins.
Oui, puis alors d'abord oui, c'est une station tranquille, une station balnéaire sympathique, familiale. Les colonies de vacances, il y en a partout. Hein. C'est la ville des colonies de vacances en Loire-Atlantique, des centres de vacances, des vacances de mer. Donc on est habitué à vivre ça. Et il n'est jamais rien arrivé. C'est la première fois qu'un enfant disparaît aussi mystérieusement. Et j'appuie le mot mystérieusement parce qu'effectivement, vous l'avez dit il y a quelques instants, il disparaît en pyjama, en pleine nuit. Et en plus, il est pieds nus. Donc on se demande ce qui a pu se passer. Alors effectivement, alors il faut savoir aussi que toute la population va se mobiliser. Hein. C'est-à-dire que les affichettes, quand vous avez parlé, vont être collées partout.
Racontez-nous, effectivement, les habitants sont tout de suite, ils se mettent sur la piste, hein, ils essayent d'apporter leur aide, c'est ça?
Oui, bah, de toute façon, il y a une incompréhension, puis en même temps, vous savez, vous êtes brévinois et vous apprenez que dans votre ville, il y a un enfant qui a disparu d'une manière étonnante. Alors, très vite, en fait, au départ, il y a la fugue, effectivement, la question de fugue. Donc, effectivement, on se met à chercher. Et c'est vrai que quand on déambule dans la ville dès les premiers jours, donc il y a bientôt 17 ans, les gens regardent, les gens font attention, les gens signalent. Après, avec les affichettes, on voit les gens s'arrêter, lire l'appel à témoins, enfin, lorsque les affichettes, avec la petite photo de Titi, hein, Et donc, là, les gens, on voit bien, de toute façon, à travers la ville, les journalistes, d'ailleurs, lorsqu'on tend le micro, tout de suite, les gens viennent témoigner aussi. Hein, vite hein, pour éboigner leur émoi et leur volonté de résoudre au plus vite cette affaire. On est pressé de retrouver. Voilà.
Tout à fait. On ne peut pas imaginer dans ces cas-là le pire. On a envie de retrouver cet enfant. On va tout faire pour le retrouver. En quelques mots encore, Patrice Gabart, comment se présente ce centre de vacances? Je crois qu'il est près d'une épaisse forêt, c'est ça? C'est dans un milieu très boisé.
Oui, la plupart des centres de vacances de Saint-Brévin sont le long de la route bleue, celle qui en fait ensuite nous emmène sur le pont de Saint-Nazaire pour aller jusqu'à Saint-Nazaire. Donc c'est une route importante. Et d'ailleurs là, il y a un lieu de ralentissement qui existe depuis longtemps parce qu'effectivement beaucoup d'écoles, de classes traversent la route. Et de chaque côté de cette voie, sous une épaisse forêt, effectivement, il y a plusieurs centres de vacances. Il fut un temps. Je sais même plus, mais je crois qu'il en existe quasiment plus. Mais à l'époque où les centres de vacances étaient très fréquentés, il y en avait. Ils étaient tous les uns collés aux autres. Alors effectivement. Ils sont souvent tous délimités par un grillage dans une épaisse forêt. D'ailleurs, à propos du grillage, je ne sais pas si vous en parlez il y a quelques instants, mais dans quelques instants, mais effectivement,
vous pouvez
s'apercevoir
en parler
dans l'enquête.
Allez-y,
s'apercevoir. Alors, l'enquête se poursuit. Alors, dans l'enquête, on va aussi s'apercevoir qu'il y a un endroit, l'un des grillages, bien camouflé dans l'épaisse végétation, en tout cas abrité des regards. Ce grillage, il est abîmé, il est coupé, hein, et on peut supposer que quelqu'un est passé par là.
D'accord, oui. Donc ça pose des problèmes. Bonsoir Cathy Richard.
Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Voilà, aucun lien de famille, je le précise pour nos auditeurs. Vous êtes l'avocate de la grand-mère de Jonathan. On a entendu Patrice Gabart et c'est intéressant. Effectivement, il y a cette porte qui n'est pas fermée à l'intérieur du centre. Il y a ce grillage qui est affaissé. On ne peut pas dire que la sécurité soit maximale, non, à ce moment-là.
En réalité, on s'est aperçu après que ces locaux étaient vraiment délabrés.
Vétuste.
Et vous savez, même, on a eu un faux espoir à un moment parce qu'on avait retrouvé une trace ADN sur l'oreiller de Jonathan.
Une gouttelette de sang,
voilà.
C'est ça?
Et du coup, on s'est dit, mais bon, ça peut être ça, quoi. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, c'était celle d'un enfant qui avait été précédemment dans la colonie de vacances. D'ailleurs, les draps n'étaient même pas spécialement lavés, vous voyez. C'était pas terrible, non, effectivement. Mais après, il faut savoir que même si on part du principe que tout pouvait permettre d'aller à cet endroit-là, puisque la porte du couloir qui donnait dehors ne fermait pas, la porte de la chambre dans laquelle était Jonathan n'est pas la chambre qui était la plus près de cette porte de secours, de cette sortie de secours. Il y avait d'autres portes, mais celle de la chambre de Jonathan avait plus de poignée
C'est ça.
Voilà. Bon, donc on peut penser à ce moment-là en se disant Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu un peu par hasard et puis qui a suivi en réalité les défaillances de la colonie.
Oui, bien sûr. Quelqu'un qui aurait observé, etc.
Il faut quand même un sacré sang-froid.
Il faut un sacré sang-froid, ne serait-ce que pour pénétrer dans un établissement, même si effectivement il n'y a pas une sécurité absolue, et ce qui est sans doute été le cas. En quelques mots, Maître Richard, le petit Jonathan, c'est une famille... presque banal, il n'y a pas de soucis.
Le petit Jonathan, c'est un petit garçon adorable, il a 10 ans, c'est un petit blondinet, il est timide, enfin, c'est pas un dur, vous voyez, c'est vraiment le petit garçon dont on n'imagine pas qu'il ait fugué. C'est pas un meneur, c'est pas un dur, c'est un petit garçon adorable. Alors un moment on soupçonne le papa parce que les parents sont séparés, mais enfin bon, c'est la piste, elle tient.
Elle fait flotte.
On se rend tout de suite compte que c'est pas ça. Et puis tout de suite, on se rend compte surtout que on est quand même en face de quelqu'un qui est venu, qui a pris un enfant visiblement, s'il n'est pas sorti, et qu'il faut quand même un sacré sang-froid pour ça. Ce soir-là, il y avait aussi une espèce de petite fête, donc on sait qu'il y avait des animateurs qui étaient réveillés, enfin voilà.
Ouais.
Donc il fallait y aller malgré les lumières, etc.
Les recherches vont se multiplier. Le moindre indice se doit d'être exploité. Une course contre la montre qui va s'achever avec la découverte du corps.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL.
Au programme ce soir de l'heure du crime, l'enlèvement de Jonathan Coulon dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 à Saint-Brévin-les-Pins. Un mois et demi plus tard, le corps de l'enfant est découvert bien loin du centre de vacances. Le 19 mai 2004, des résidents du manoir de Porte-Calon à Guérande, à 30 km de Saint-Brévin-les-Pins, signalent la présence d'un corps à la surface d'un petit étang. Cette tache sombre avait été aperçue quelques jours auparavant, mais personne alors ne s'était douté qu'il s'agissait d'une forme humaine. En début de soirée, les gendarmes retirent le corps. Il s'agit sans aucun doute de celui de Jonathan, l'enfant disparu du centre de vacances. Il n'a pas été jeté ici dans la précipitation. Il est retrouvé nu, en position fœtale. Des cordelettes en nylon ont été utilisées pour enserrer les chevilles, les poignets et le cou de la victime. Le tueur a lesté le corps avec un parpaing de 18 kilos qui n'a pas pu empêcher le corps de remonter. Les premiers résultats de l'autopsie ne concluent pas à des violences sexuelles. L'enfant serait mort étouffé. Fait très important et qui va conditionner en grande partie la suite des investigations, un expert entomologiste, l'étude des insectes, affirme que la victime a été immergée entre le 7 et le 8 mai, un mois après le rapt. Jonathan aurait donc été longtemps séquestré avant d'être tué. Cette chronologie change tout. Les gendarmes se mettent à la recherche d'un lieu où aurait été séquestré le petit garçon. Des dizaines d'adresses sont vérifiées. La piste locale est alors privilégiée. Les profils criminels des habitants de la région sont passés au crible. Des milliers d'empreintes relevées, plus de 1500 tests ADN réalisés, comparés à la fameuse goutte de sang retrouvée dans la chambre du centre de vacances. Mais aucun profil ne match. 3 ans auparavant, les gendarmes avaient lancé un appel à témoins pour retrouver un homme qui s'introduisait dans les centres de vacances pour agresser sexuellement des enfants. Une trentaine de faits relevés au sud de la Loire. Cette piste est réactivée, mais elle ne donne rien. Une autre hypothèse, venue d'Allemagne, figure également très tôt dans le dossier. Dès qu'ils ont pris connaissance de la découverte du corps, la police judiciaire allemande s'est rendue à Saint-Nazaire. Le mode opératoire de l'assassinat ressemble à s'y méprendre à celui d'un tueur en série d'enfants qui sévit alors outre-Rhin. Tous les détails concordent. Cet homme n'avait pas frappé depuis 3 ans, or il tue tous les 3 ans. Il s'en prend à des garçons prépubères, enlevés dans des colonies de vacances ou des orphelinats. Il se débarrasse des corps loin du lieu de l'enlèvement. Il n'a jamais été arrêté. On ne le connaît que sous ses surnoms, Der Maskenmann ou Der Schwarzmann, l'homme au masque ou l'homme en noir. Patrice Gabart, notre correspondant RTL à Nantes, et ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Patrice, stupeur avec la découverte du corps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce lieu où est découvert justement le corps du petit Jonathan ?
Eh bien, je vais vous dire une chose, j'ai habité pendant 18 ans à 5 km de cet endroit.
Ah, ben vous
et je ne le connaissais pas.
Ah bon ? C'est un lieu caché ?
Je ne le connaissais pas. Non, alors, en fait, la mare, je connaissais l'endroit. Hein, je connaissais le petit, le beau muret historique qui longe et qui dissimule le plan d'eau. Mais en fait, dès le premier jour, bon, c'est un jeudi de l'Ascension, hein, le 19 mai. Hein, donc, il y a plein de sensations particulières. Et quand j'arrive à cet endroit-là, parce qu'on me donne le nom au téléphone et je quitte Nantes pour rejoindre ce lieu-là, et je le connais dans ma tête. Et je ne sais pas qu'il y avait le plan d'eau de ce côté-là. Et je me dis, c'est ma première intuition, je me dis, mais pour savoir qu'il y a un étang là, il faut déjà avoir passé là, avoir franchi le mur, être rentré à l'intérieur. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît le lieu. Et vous voyez, même moi qui habitais là depuis, tout près du lieu et qui fréquentais souvent Guérande pour aller voir les copains, quand j'étais adolescent, ben, je connaissais pas cet endroit. Donc ça m'a marqué dans un premier temps parce que je me suis dit, voilà, il faut connaître.
Bien sûr.
Et quand effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on évoque la piste de quelqu'un qui serait resté peut-être dans un premier temps plusieurs semaines avant de tuer Jonathan et qui pourrait pu habiter dans le secteur, ça correspond à cette hypothèse. Il faut connaître le lieu et peut-être habiter là. Et c'est aussi cela aussi qui a guidé dans un premier temps les enquêteurs à rechercher vraiment la piste d'un lieu où effectivement Jonathan aurait pu être séquestré.
On va ouvrir beaucoup de maisons, je crois. Hein. Il va y avoir plein de vérifications qui vont être lancées à ce moment-là.
Oui, puis alors, il faut savoir aussi que on va aussi dans les marais salants, vous voyez, on est tout près des marais salants de Guérande, hein. Et donc c'est un endroit effectivement où on peut peut-être dans les différents villages se cacher de façon discrète ou séjourner de façon discrète, voilà. Et donc effectivement, on va ouvrir plusieurs maisons dans le secteur entre La Turballe, Guérande et les petits villages qui sont autour des marais salants.
Bien sûr. Maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan, j'ai dit dans mon récit, enfin je l'ai rapidement évoqué, pas de violence sexuelle. Vous confirmez que l'autopsie a conclu effectivement ou c'était plus compliqué que ça?
Oui, de toute façon, c'est assez compliqué puisque le corps était dans un état de putréfaction avancée. Donc en réalité, sur cette première autopsie, on a il y a eu beaucoup de discussions. Il y en aura d'autres. Mais vous savez, c'est toujours très difficile d'intervenir dans le cadre d'un dossier dont l'instruction est en cours et je ne souhaite pas forcément entrer dans les détails du dossier, cela.
Dans tous les cas, c'était une autopsie techniquement difficile à réaliser et on verra par la suite que cette autopsie d'ailleurs a évolué et qu'on a changé un petit peu le fusil d'épaule du côté des enquêteurs. Je parlais aussi d'une piste qui se dessine quand même assez tôt, c'est cette piste allemande. Les Allemands, ils viennent en France pour dire attention, ça ressemble beaucoup, etc. À quelqu'un qui rôde chez nous. Ça, c'est important dans l'enquête à ce moment-là.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que à la fois, on peut se dire, pour les raisons qu'on vient d'exposer, que c'est quelqu'un qui connaît bien le coin, hein, parce que vraiment, ce mur. Ce grand mur là empêche de voir la mare, cet étang depuis la route. On voit le manoir, on voit cette espèce de grand château, mais en revanche, c'est que du château qu'on peut voir l'étang quasiment. Donc c'est vrai que ils sont à ce moment-là sur des pistes en se disant forcément des pistes locales, des pistes locales. Si je dois dire une chose, c'est que en revanche. La piste allemande telle qu'elle apparaît, enfin, lorsqu'on entend parler de Schwarzmann, je vais dire franchement, moi, j'ai entendu parler de Schwarzmann, non pas par les enquêteurs allemands qui sont venus, etc., parce que ça, c'était hors dossier, ça ne rentre pas forcément tout de suite dans le dossier d'instruction, etc. Non, c'est des fuites journalistiques. La première fois que j'ai vu ça, c'était dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Et quand j'ai lu que cet homme existait, un Schwarzmann dont on ne savait pas encore qui il était.
On ne sait pas qui il est.
Mais quand on voit le mode opératoire de ce garçon, et quand on voit les photos de ces petites victimes,
qui ne sont que des garçons, je le précise.
Ce ne sont que des garçons, autour de l'âge de Jonathan, des petits blonds comme... Enfin, c'est édifiant, je dis, c'est même pas qu'ils sont ressemblants, on a l'impression que c'est des photocopies. Voilà, c'est vraiment... Donc on se dit, il y a un mode opératoire là, vraiment qui est très particulier, et en plus de ça, il y a un profil de victime qui ressemble. Donc tout de suite, il a quand même une belle tête de vainqueur. Hein.
Début 2005, l'interpellation d'un Allemand qui a avoué avoir tué une petite fille et un petit garçon est examinée. Qui plus est, cet homme habite Cuxhaven, une ville jumelée avec Vannes en Bretagne. Il s'appelle Mark Hoffmann, mais il n'est pas le tueur de Jonathan. La piste allemande va pourtant rester en filigrane des investigations.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à l'enlèvement et au meurtre en avril 2004 de Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Les années passent et le dossier criminel ne progresse pas. Les parents du petit garçon n'ont plus de nouvelles de l'enquête et craignent que le dossier ne se transforme en cold case. 3 ans après le rapt et la mort de Jonathan Coulon, une nouvelle juge d'instruction de Saint-Nazaire, Alice Bironneau, est chargée de l'enquête. Son prédécesseur s'était attiré les foudres de la famille du petit garçon qui lui reprochait son absence de communication, notamment sur l'avancée des recherches ADN. La juge saisit la cellule d'analyse criminelle de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. À elle de passer en revue le conséquent dossier établi par la section de recherche de Rennes et de relire avec un œil neuf toute la procédure. Les parents de Jonathan sont rassurés par ce regain d'énergie, même si l'équipe d'enquêteurs chargée de l'affaire s'est considérablement réduite au fil du temps. Les mois suivants, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, apporte une pièce capitale. Des experts ont repris les résultats de l'autopsie. Il s'avère que l'enfant n'a pas été séquestré après son enlèvement, comme on le croyait, mais qu'il a été tué assez rapidement. La lecture du dossier change du tout au tout. Cette révélation scientifique indique que Jonathan n'a pas été gardé prisonnier dans une maison du coin. La piste allemande reprend du poids. Les contacts s'intensifient bien sûr avec la police de ce pays. Celle-ci reste convaincue de la possible implication dans le crime de Saint-Brévin d'un criminel agissant sur son sol, baptisé l'homme en noir. Les gendarmes retrouvent alors dans le dossier le troublant témoignage d'un agriculteur de Guérande qui avait appelé le numéro vert juste après le rapt. Il disait avoir aperçu une voiture à la nuit tombée sur un sentier menant à un étang. Il s'était approché et avait aperçu un homme assez grand près d'une BMW au coffre grand ouvert. À sa vue, l'homme était reparti. C'était une voiture immatriculée en Allemagne. Ce témoignage avait été classé car l'agriculteur ne se souvenait pas à quelle date il avait assisté à cette scène. Des recherches sont lancées pour identifier les Allemands qui ont pu circuler à l'époque dans la région. Même des ouvriers et employés de nationalité allemande du chantier du paquebot Queen Mary à Saint-Nazaire ou encore ceux d'un site d'assemblage d'Airbus sont retrouvés et questionnés sans résultat. Jusqu'à ce 15 avril 2011, la police allemande interpelle un certain Martin Ney, alors âgé de 41 ans, un ancien éducateur scolaire. Il serait l'homme en noir, le serial killer d'enfants recherché depuis presque 10 ans, 4 meurtres à son actif et des dizaines d'agressions sexuelles. Il est interrogé sur le cas Jonathan, mais il nie en bloc. Il semble alors avoir un alibi. Il n'est pas sûr qu'il soit le tueur du petit garçon. Maître Cathy Richard, alors on va prendre un petit peu les choses dans l'ordre si vous voulez bien. Vous êtes, je le rappelle, l'avocate de la grand-mère de Jonathan. Il y a tout d'abord cet incroyable rebondissement, tout de même scientifique, avec l'autopsie, l'heure du décès qui change. Cette fois, la piste locale va s'éloigner. Ça permet d'élargir le spectre et de revenir peut-être à quelque chose de plus solide.
On n'est pas sur une heure du décès, on est sur une période, on va dire. Parce que l'heure, c'est pas aussi précis que
sur
ça.
Sur une période.
Mais cette période change. Et effectivement, ça change surtout le profil. Là encore, je parlais tout à l'heure de profil de victime. Ça va changer aussi le profil d'auteur entre l'auteur qui peut garder séquestré un enfant pendant de nombreux jours
et dans le coin, bien sûr,
et dans le coin, et puis dans un périmètre de 30 km, et puis celui qui va finalement agir relativement vite. Moi, quand j'ai dès le début j'ai accès à ce dossier, je peux pas m'empêcher de penser à Arce Montes,
l'affaire Dickinson, oui,
qui est effectivement celui qui avait enlevé et tué, enfin plutôt lui pas enlevé mais assassiné La petite Caroline Dickinson, ça se passe aussi dans une auberge de, jeunesse. Auberge de jeunesse, colonie de vacances, puisque c'était une auberge de jeunesse où était une colonie de vacances anglaise. Et on se retrouve aussi avec quelqu'un qui traverse les frontières, Arce Montes, qui était quelqu'un qui jouait beaucoup là-dessus et qui était le spécialiste, enfin, qui était aussi quelqu'un qui était spécialisé dans les agressions à l'intérieur de ces colonies de vacances. Et là, on se retrouve aussi avec, finalement, le même profil. Et quand on parle de Martin Ney, qui est celui qui, finalement, a le parfait profil de pédophile, parce qu'il va être animateur de colis de vacances, il sait exactement où il va, il connaît le système, il connaît les fonctionnements. Et puis, quand on voit qu'effectivement, il a commis plusieurs faits de ce type, on se dit que, bien évidemment, que pour des prédateurs de ce type, les frontières n'existent pas.
Et je précise, Maître Richard, que Martin Ney, il y a une histoire qui lui est reprochée aux Pays-Bas. Donc c'est quelqu'un qui voyage, qui passe les frontières. Il dit avoir un alibi, je crois que c'est sa carte de crédit qui est utilisée au moment où il aurait pu être...
On est trop précis dans le dossier, là, pour que je vous en parle.
À Saint-Brévin-les-Pins, mais moi je le sais. Donc c'est en fait...
C'est sous votre...
Il a fourni comme alibi le fait qu'il avait utilisé sa carte de crédit, alibi qui apparemment ne tient pas la route. On pourra y revenir le cas échéant. Patrice Gabart, notre correspondant à Nantes, un petit mot tout de même sur la cellule, la fameuse cellule 44, je crois qu'elle s'appelle comme ça.
Exact. Hein,
voilà, donc qui s'est activée pour la disparition de Jonathan. Elle va perdre effectivement de ses forces, mais elle va rester très active tout au long de l'enquête, cette cellule.
Oui, en même temps, elle est étonnante, cette cellule, hein, parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai bien aimé la réflexion sur, on apprend de l'avocate, on apprend les nouvelles par le Parisien, mais il faut savoir que nous-mêmes, grâce avec notre consoeur Blandine 1100 en Allemagne, on avait plus d'informations par les policiers allemands que par les gendarmes français. Et ça va durer pendant presque 17 ans. C'est-à-dire que il était plus facile d'obtenir des informations là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est étonnant chez les gendarmes français, c'est que lorsque nous, la presse, on venait les voir pour évoquer la piste allemande, parce qu'on avait plein d'éléments, notamment sur le mode opératoire, la signature criminelle, qui ressemblait quand même beaucoup à l'affaire Jonathan, il chassait, voilà, cette hypothèse était vite chassée, et d'ailleurs, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est là que est sorti du chapeau, on a eu une conférence de presse très étonnante à un moment donné pour nous, pour lancer la piste, vous savez, du violeur en série sur le littoral atlantique qui avait sévi pendant plusieurs dizaines d'années.
Alors oui, parce que là, effectivement, les gendarmes, ils vont dire, bon, ok, il y a cette piste qui existe, mais on reste au niveau local, c'est ça ?
Voilà, on restait sur une piste locale plutôt que de partir de l'autre côté du Rhin. Alors je vais me permettre de le faire très rapidement, mais allez-y. Pour montrer quand même que le mode opératoire entre les trois meurtres d'enfants en Allemagne, je ne vais pas parler de l'affaire hollandaise, mais le premier meurtre, c'est un enfant de 13 ans en Allemagne. Il disparaît tôt le matin d'un internat. On le retrouve 5 semaines plus tard, le corps... retrouvé enterré, les mains sont liées dans le dos, dans des dunes de sable au nord de l'Allemagne. En 95, la victime, c'est Denis Rostel, 8 ans. Il est enlevé dans un campement de jeunes, et alors qu'il dormait dans une tente. On le retrouve 2 semaines plus tard. Ce sont des touristes allemands qui vont retrouver son corps enterré dans une dune. Vous voyez le milieu naturel, la mare, le sable. Et puis, en 2001, c'est le meurtre de Dennis Klein, 9 ans. Alors lui, il disparaît de sa chambre pendant la nuit et on va le retrouver 14 jours plus tard. Donc toujours, il y a un délai avant de retrouver corps. Et le corps du petit garçon est retrouvé plusieurs kilomètres plus loin par un cueilleur de champignons. Et le corps-là est dissimulé dans un buisson au milieu d'une forêt. À plusieurs kilomètres de l'enlèvement. Vous voyez la distance entre le lieu de l'enlèvement et là où on dissimule le corps, et à chaque fois dans un milieu naturel et parfois attaché les mains dans l'eau. Vous voyez tout ça, le mode opératoire comme est troublant. Et c'est ce qui a d'ailleurs amené les policiers allemands à venir voir leurs collègues français pour dire, voilà, c'est une piste sérieuse.
Il est effectivement frappant. Maître Cathy Richard, vous confirmez, c'est vraiment troublant. Et là, les gendarmes vont quand même porter l'accent là-dessus, sur cette piste allemande.
Mais ce qu'on peut dire quand on parle de criminels en série, c'est qu'on va s'attacher à plusieurs choses. Comme le disait à l'instant Patrice Gabart, la signature. En fait, il y a le mode opératoire, la signature, le profil des victimes. Et là, on se retrouve avec un mode opératoire commun, on se retrouve avec une signature, notamment le fait d'attacher, etc., commun, les profils de victimes qui sont extrêmement similaires. Donc, il y a un moment où on se dit que Dieu merci, des prédateurs capables de faire une chose pareille, capable d'avoir un tel sang-froid, un tel culot. Si vous voulez, encore pour parler de ce que je pensais, dès le début, moi, j'avais prévenu ma cliente et je lui avais dit, la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça qu'une fois. Ça ne peut pas être une première fois. Donc, bien évidemment qu'ensuite, quand on regarde les nombreuses fois, ben, il n'y en a pas tant que ça. Et Dieu merci.
La piste Martinet ne va pas se perdre. L'intéressé va évoquer sans se méfier quelques souvenirs qui vont le replacer au premier plan de la scène de crime.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir à l'enlèvement et à la mort en 2004 du petit Jonathan Coulon. Après plus de 10 ans d'enquête, tous les regards sont tournés vers un homme incarcéré en Allemagne. L'Allemand Martinet apparaît plus que jamais comme le suspect numéro 1 de l'affaire Jonathan, même s'il répète qu'il est totalement étranger à ce crime. Après son arrestation, il n'avait pourtant pas fait de difficultés pour avouer 3 meurtres de petits garçons. Stéphane Jarre, 13 ans, à Chessel, Dennis Rostel, 8 ans, à Schleswig, Dennis Klein, 9 ans, à Cuxhaven. La police le soupçonne d'avoir tué 2 autres enfants, Nicky Verstappen, 11 ans aux Pays-Bas, et Jonathan Coulon, 10 ans et demi, en France. Le 27 février 2012, Martinet est condamné à la prison à vie par le tribunal de Stad. Les juges insistent sur la dangerosité de cet ancien éducateur et la gravité particulière de ses forfaits. Des assassinats et 20 agressions sexuelles. Un criminologue le décrit comme un planificateur du crime, un homme qui sait s'attirer la confiance des enfants, quelqu'un qui n'a aucune inhibition à tuer. Concernant Jonathan, Martinet ne livre aucun élément. Il affirme qu'il se trouvait en Allemagne au moment des faits. Le dossier n'avance pas. 5 ans plus tard, à la faveur d'une conversation avec un co-détenu, Martinet se laisse aller à des confidences. Il raconte qu'il s'est rendu en France et qu'il a tué le petit Jonathan. Il s'étonne même de ne pas avoir été arrêté pour ce crime, car dit-il, il avait ce jour-là égaré son sac à dos sur place. Cet objet, si quelqu'un l'a retrouvé, aurait pu très facilement le confondre. Le récit rapporté par le co-détenu donne des détails que seuls les enquêteurs connaissent. Cette information est aussitôt transmise au pôle criminel de Nantes, où a été transféré le dossier et où opère un nouveau juge d'instruction, Stéphane Lorenz. Sans révéler les confidences de Martinet, le juge lance des recherches. Le 5 avril 2018, un appel à témoins est lancé pour tenter de retrouver ce fameux bagage perdu, susceptible de confondre Martinet, un sac à dos fermé par une lanière en lacet. Patrice Gabart, vous êtes notre correspondant à Nantes et ce soir notre invité dans l'heure du crime. On l'a retrouvé ce sac à dos ou pas ?
Non, toujours pas. Toujours pas. Enfin, en tout cas, ma connaissance. C'est un appel à témoins qui n'a rien donné. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, d'ailleurs, on a l'appel à témoins et quand on essaie d'avoir plus de renseignements, mais ça a toujours été le cas dans cette enquête, et qu'on appelle les gendarmes, on n'a pas de plus de renseignements. On ne sait pas pourquoi ce sac vient là. Enfin, voilà. Donc, en fait, l'environnement qui a amené cet appel à témoins, on ne le connaît pas.
Ah, c'est ça.
En fait, ce sont nos confrères. Alors, on peut quand même ce sont nos confrères du Parisien qui finalement vont sortir. Alors, vont finalement sortir l'information que ce sont les confidences d'un co-détenu et dont le procès verbal, en fait, a été réalisé 6 mois avant l'appel à témoins. Donc, s'est écoulé 6 mois entre 6 mois entre le procès verbal, donc les confidences du co-détenu qui raconte ce que lui a dit Martinet. Et finalement, l'appel à témoins. 6 mois, c'est long quand même. Six mois, c'est étonnant.
Six mois, c'est très long. Alors effectivement, il a fait ses confidences à un co-détenu. Vous n'êtes pas surpris par ce qu'il peut raconter, parce que vous l'avez très bien décrit. C'est un profil, et on va en reparler avec Maître Cathy Richard, c'est un profil de pur et dur de pédophile, Martinet, c'est ça ? Un prédateur.
Oui, puis... Oui, et puis en plus, alors, après, ce qu'on a su aussi à travers son procès, j'ai lu quelques lignes traduites sur ce qui s'est passé dans le procès, c'est que ce qui est étonnant aussi dans l'agissement de Martinet, parce qu'il a commencé en fait ses agressions sexuelles, il les commence bien plus tôt, hein, et il rentre, il se fait voir parfois, on le retrouvait à un moment donné avec un enfant dans les bras, et comme il est aperçu dans le couloir, il lâche l'enfant, il se met à fuir, il va, à un moment donné, il va même rentrer, alors je n'ai plus la date exacte, mais il va rentrer dans un centre de vacances, il va en pleine nuit discuter avec 5 jeunes, mmh. il va en violer 3 et disparaître. Mmh. En fait, il y avait une prise de risque énorme. En fait, c'est pour ça que ce Martinet est un violeur, tueur en série très particulier quand même. Oui. Parce qu'en fait, il s'exposait comme si c'était, ça faisait aussi partie de sa manière de procéder. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de se faire voir.
Oui.
Mais ça, à ce moment-là, on peut imaginer qu'effectivement, c'est plus facile de rentrer, vous voyez, dans un centre de vacances en pleine nuit, de franchir les portes, de se balader dans les couloirs. C'était aussi l'un des aspects de la signature criminelle de Martinet.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Patrice Gabart, parce que là, je vais me tourner vers Maître Cathy Richard. Là, on a le profil typique d'un tueur narcissique, comme souvent sont les tueurs en série.
Il est redoutable et on se rend compte que dans son excitation, enfin, il est excité justement par le fait de pouvoir jouer avec le danger et de dire qu'il est plus malin que tout le monde. Mmh. Et ça, le fait qu'il se dit qu'il est plus malin que tout le monde, on va le retrouver aussi dans sa relation à la France. Parce que le juge Lorenz, qui est en charge du dossier, est un juge qui va être vraiment tenace sur ce point. Et vraiment, je voudrais lui rendre un hommage appuyé parce que il a vraiment eu d'énormes difficultés avec cette fameuse piste allemande. Il faut savoir que lui, il a demandé à pouvoir entendre Martinet sur les faits qui concernent Jonathan en octobre 2014. Ah en oui, octobre très tôt, 2014. Bien sûr, ouais, ouais. Et c'est seulement là où il va avoir la possibilité de l'entendre. Il l'a mis en examen. Mais ce qu'il faut savoir entre-temps, c'est qu'il est quand même... Le juge Lorenz est allé 2 fois en Allemagne. Il s'est déplacé 2 fois en Allemagne avec les enquêteurs pour essayer d'entendre Martinet. Et Martinet n'a pas daigné sortir de sa cellule. Donc il faut savoir que c'est quand même quelqu'un, Martinet, qui, le moins qu'on puisse dire, ne met pas la meilleure volonté à collaborer avec les autorités judiciaires françaises. Mais ça, c'est tout le personnage qui a énormément de morgue. Voilà.
Oui, c'est ça. Et puis, encore une fois, on va revenir un petit peu sur son profil, parce que ça, c'est tout à fait...
Manipulateur.
Et c'est passionnant, ça explique beaucoup de choses. J'ai cité un expert qui était au procès, un expert allemand, un criminologue. Il sait s'attirer la confiance des enfants. Et c'est ce que disait Patrice Gabart aussi. Il sait jouer avec ça. Il joue avec le feu. Il va même...
Parce que ça fait partie de toute l'excitation, effectivement, du jeu. Ça fait partie... C'est pas... S'il joue avec les enfants, c'est pas parce qu'à un moment il est complice avec eux et qu'ensuite il aura une pulsion. Le jeu fait partie.
C'est la prédation.
Fait partie de la prédation. On est vraiment dans l'idée du chat et de la souris. Alors je voudrais juste faire un petit message pour dire que l'appel à témoins sur le sac, il est toujours vrai. Enfin, il faut qu'on en parle encore de ce sac à dos parce que ça nous intéresse toujours, ce sac à dos.
Bien sûr.
C'est un sac à dos en cuir marron. Et puis il est fermé par un lacet et c'est vrai qu'il est là-bas depuis 2004. Alors est-ce que quelqu'un a un jour trouvé ce sac à dos, balancé le sac à dos dans un coin, etc. Même si quelqu'un peut l'avoir, même si c'est quelqu'un qui l'aurait jeté en nous disant bah oui c'est vrai, maintenant je me souviens que j'ai trouvé un sac à dos et je l'ai jeté, ça nous intéresse toujours.
Encore 2 années vont se dérouler, mais cette fois, le juge d'instruction et les enquêteurs tirent sur le bon fil. Ils vont obtenir la venue de Martinet en France.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir, heure du crime consacrée au rapt et au meurtre de Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Son assassin présumé, le dénommé Martinet, est un ancien éducateur scolaire allemand, emprisonné à vie dans son pays pour des meurtres d'enfants. Martine Ney, 50 ans, en cette année 2020, est attendue par le juge de Nantes, Stéphane Lorenz, pour être interrogée en France. Depuis 2014, le magistrat sollicite cette audition qui pourrait permettre de faire la lumière sur la mort de Jonathan. Il s'est rendu deux fois en Allemagne avec des officiers de police judiciaire pour pouvoir l'entendre, mais à deux reprises, Martine Ney a refusé de recevoir l'équipe d'enquêteurs. Hormis ses confidences accordées à un co-détenu, il n'est jamais revenu sur l'affaire Jonathan et sa présence éventuelle à Saint-Brévin-les-Pins. En vertu du mandat d'arrêt européen, l'Allemagne accepte de remettre le suspect à la France. Le transfert aurait dû se faire en 2020, mais la crise sanitaire retarde l'opération qui n'aura lieu que l'année suivante. Le lundi 25 janvier 2021, presque 17 ans après la mort de Jonathan Coulon, Martine Ney est mise en examen à Nantes pour son enlèvement et son meurtre. Le juge Lorenz, selon les préceptes du mandat d'arrêt européen, a exactement 8 mois pour pouvoir interroger le suspect. Au-delà de cette date, il sera réincarcéré en Allemagne pour y purger sa peine de perpétuité. 8 mois pour que Martine Ney passe aux aveux. D'ores et déjà, les parents de Jonathan sont soulagés, sa mère Virginie.
Pour moi, c'est une petite lueur d'espoir pour que je puisse faire déjà mon deuil et avoir un visage et un nom. Mais j'ai besoin de ça et puis de savoir ce qu'il lui a fait exactement. Je veux savoir s'il lui a fait du mal, s'il l'a fait souffrir. J'ai besoin de ça. Tourner la page, me dire que aussi la personne qui a fait ça à mon fils va payer pour ce qu'il a fait. Sans oublier mon fils, bien sûr.
Laetitia, la sœur de Jonathan, qui avait à l'époque des faits 11 ans et demi, un an de plus que son frère, espère pour sa part un procès qui marquerait la fin de l'enquête et le début d'une nouvelle période qui permettrait à la famille de faire son deuil du petit garçon. Maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan, j'ai raconté 8 mois, il est en quelque sorte prêté à la justice française, le fameux Martine Ney, pour qu'il s'explique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le juge va l'entendre?
Alors, il a été mis en examen. Il a été présenté au juge d'instruction qui l'a immédiatement mis en examen. Alors, mettre en examen quelqu'un, c'est quand on a des charges suffisantes qui permettent de penser qu'il a participé à l'infraction. Et lorsqu'une personne est mise en examen, le juge d'instruction lui explique qu'il a le choix entre ne pas faire de déclaration du tout, garder le silence, entre faire des déclarations spontanées ou accepter de répondre aux questions. Vous voyez, une gradation. C'est pas très surprenant, j'avoue qu'on s'y attendait tous, que Martine Ney a choisi de garder le silence. On sait très bien que de toute façon, il n'est pas coopératif du tout, donc il a gardé le silence. Maintenant qu'il est mis en examen, il a, par intermédiaire de son conseil en France, accès au dossier. Il va falloir qu'il prenne connaissance de ce dossier, du dossier français. Il faut dire quand même que le dossier français est énorme, on a quand même des années d'investigation. Alors en plus, tout n'est pas pertinent dedans, parce qu'on sait qu'on a, y a eu beaucoup de fausses pistes. Il va falloir qu'il prenne connaissance de ce dossier et puis ensuite il va devoir répondre aux interrogatoires et cette fois-ci aux questions du juge d'instruction qui va vraiment ne pas se contenter de le mettre en examen, mais lui poser des questions. Et puis, il va y avoir aussi des expertises à diligenter, des expertises sur le territoire national, mais des expertises psychiatriques, psychologiques, françaises. 8 mois, c'est rien, Jean-Alphonse.
Alors ça, c'est très important.
Ça n'est rien.
Extrêmement important ce que vous racontez, parce que moi, je ne me doutais pas que c'était aussi long, mais effectivement, là, il y a une espèce d'Himalaya judiciaire à franchir, à remonter. On est, si je puis dire, pas sorti de l'auberge. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour que les choses se passent bien et que ça s'accélère?
Déjà, la première chose, vous avez dit 8 mois pour qu'il passe aux aveux. Moi, j'ai envie de vous dire, Martine Ney, s'il ne passe pas aux aveux, eh ben, tant pis. Je veux dire, on ne va pas le supplier. Moi, vous voyez,
oui, ce type de personnalité.
Non, mais bien sûr, bien évidemment. Mais pour dire ce type de personnalité, moi, je ne veux pas lui dire que je dépends de lui. Vous voyez,
on est d'accord.
Voilà. Maintenant, bien évidemment, pour ma cliente, pour sa grand-mère, pour sa mère, il est indispensable de l'entendre là-dessus, s'il veut bien parler, bien sûr, mais loin de moi l'idée de le supplier. En revanche, s'il y a quelqu'un que j'ai envie de supplier ici, c'est l'autorité judiciaire, ce sont les supérieurs hiérarchiques du juge d'instruction, Lorenz. Parce qu'il faut savoir qu'un juge d'instruction, il a beaucoup de dossiers dans son cabinet. Tous les juges d'instruction en France ont beaucoup de dossiers dans leur cabinet. Mais en plus de ça, on les utilise en plus pour faire des correctionnels, pour aller siéger aux assises, les nouvelles cours criminelles, enfin bref. Et là, lui, ce qu'il faudrait, et moi ça j'en appelle aux autorités judiciaires, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit déchargé d'un certain nombre de missions on le soulage d'un certain nombre de clients pour qu'il puisse se consacrer uniquement à l'affaire, à cette affaire. Uniquement, c'est beaucoup espéré, mais qui principalement à cette affaire-là pendant ces 8 mois. Une affaire criminelle, c'est plus que 8 mois. Là, il a 8 mois. Il faut absolument qu'on lui permette d'avoir les moyens d'instruire ce dossier-là pendant 8 mois.
Patrice Gabart, notre correspondant à Nantes, correspondant de RTL, et ce soir l'un de nos invités de l'heure du crime. Vous avez des informations particulières sur ce qui peut se passer ou ce qui va se passer, et l'état d'esprit dans lequel peut-être se trouve Martine Ney, même si je pense que c'est compliqué à savoir.
Alors, sur l'état d'esprit de Martine Ney, je ne peux que supposer, mais vous voyez, dans ces meurtres en série, il a avoué les meurtres en Allemagne, mais comme par hasard, c'est sans doute pas hasard, il a toujours nié, bien sûr, son implication dans le meurtre de Jonathan. Et également, il a toujours nié l'assassinat du néerlandais Nicky Verstappen. Alors, il faut savoir qu'en Hollande, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a été reconnu coupable d'enlèvement et d'abus sexuels, qui a entraîné la mort donc de ce jeune garçon en 2020. Mais enfin, du moins pour la condamnation 2020. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque Martine Ney, l'affaire hollandaise rebondit. Parce que vous l'avez dit aussi tout à l'heure en préambule, c'est tous les 3 ans. Hein.
C'est vrai.
C'est ça que vous dites. 92,
cycle,
95, 98, 2001, 2004. Voilà. C'est-à-dire que si on considère qu'il est impliqué également dans les 2 autres affaires, donc pour l'instant qu'il n'a pas avoué, eh bien, ça fait 1 tous les 3 ans. Et ça aussi, c'est un signe assez troublant. Puis alors, concernant... Alors, je rejoins tout à fait la demande de l'avocate, parce que de maître... Parce que,
maître Richard.
On sait bien, Richard. Maître Richard, oui. Parce qu'effectivement, au tribunal de Nantes, c'est un peu compliqué. Hein. Il est sous pression, comme beaucoup de tribunaux en France.
Et c'est pas facile.
Effectivement, le juge d'instruction croule sous les dossiers.
Tout à fait, oui. Et ça, c'est pas la spécificité de Nantes, mais hélas, de la plupart des palais de justice en France. Patrice Gabart, encore un petit mot. C'est une histoire qui a marqué, évidemment, les esprits dans votre région, à Saint-Brévin en particulier. On en parle toujours aujourd'hui. On espère qu'il y aura une issue, un procès.
Oui, alors, ça, c'est sûr. Enfin, alors après, effectivement, ça fait 17 ans. Hein. On est rendu dans le cold case, mais... Mais dès qu'on prononce le mot Jonathan, c'est tout de suite, voilà. C'est, enfin, en tout cas, à Nantes, à Saint-Nazaire, sur la côte, dès que vous évoquez le nom de Jonathan, d'ailleurs, c'est Jonathan, hein, parce que vous avez dit Jonathan.
Ouais, j'ai dit Jonathan depuis le début, famille. Et du coup, je l'ai gardé, Jonathan, je suis désolé.
C'est Jonathan. Non, mais et à chaque fois qu'on prononce le mot de Jonathan, on n'a même pas besoin de dire affaire. Vous voyez ça tout de suite. Il y a voilà la réaction. Effectivement, et je veux dire que pour en discuter avec des gens qui sont pas directement concernés par l'enquête ou autre, ils n'ont qu'un souhait, c'est effectivement qu'on mette un nom sur le meurtrier de Jonathan.
Maître Cathy Richard, encore un dernier mot, ça sera le dernier parce qu'on arrive au bout de l'émission. On peut espérer un procès un jour de cet homme.
De tout cœur. On n'est pas forcément dans un cold case. Un cold case, c'est souvent quelque chose qu'on a abandonné, une piste qui renaît. Là, le dossier n'a jamais été mis de côté. Hein. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de prescription qui court, il n'y a rien, bien évidemment. Et j'ai absolument une confiance certaine en fait qu'un jour, Martine Ney devra répondre devant les juridictions françaises, et pas seulement devant le juge d'instruction, mais devant une cour d'assises de l'enlèvement et de l'assassinat de Jonathan.
Merci beaucoup Maître Cathy Richard et Patrice Gabart d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime avec l'affaire Jonathan Coulon, devenu désormais le dossier Martine Ney, son meurtrier présumé. La justice française a 8 mois pour obtenir ses confidences. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.